Donc vous avez les hommes qui veulent construire la tour de Babel, à Babylone. Ils montent, ils montent, ils montent, et ça s'accompagne de sacrifices humains et tout ça. Enfin, c'est l'homme quand... Vous voyez, Adolf Hitler, il n'a rien inventé. Hein. Quand on tue. Hein. Et donc c'est monstrueux. Hein. C'est pas seulement un acte d'orgueil pour faire une architecture. Hein. C'est, il y a l'idolâtrie derrière, hein, et le culte des démons. En Babylonie, vous avez un culte incroyable et vous avez les noms de princes infernaux qui viennent de la tradition babylonienne. Hein. Parce que les démons leur apparaissent et sont en communication avec eux.
Donc, quand on parle de Belzébuth et compagnie, c'est
mais bien sûr, ce sont des vrais démons et Baal apparaissait véritablement. Vous avez à Palmyre, là, en Irak. Vous voyez, vous avez les temples de Baal. Alors, on dit, oh, c'est patrimoine de l'humanité. Certes, certes, mais enfin, quand on décapitait les enfants, qu'on les jetait dans des fours, c'est peut-être pas le plus grand patrimoine humain, quoi. Vous voyez? Donc, les voilà qui font cette tour, et à un moment, Dieu divise les familles et les patriarcats en langues différentes. Les uns vont conserver la langue adamique. On peut penser que l'hébreu, hein, l'araméen, est la langue d'Adam, est la langue que Dieu a donnée premièrement. Il crée l'indo-européen. Vous savez, les gars, le clan de Japheth, qui se retrouve avec l'indo-européen. Et il crée encore d'autres racines, parce que les linguistes vous diront, oui, en effet, il y a des traditions de langue avec des mots totalement différents. Mais l'indo-européen est très reconnaissable. Mais l'indo-européen n'est pas l'araméen. Confusion des langues. Babel, ça veut dire confusion. Et là, ils se retrouvent là, et ils ne se comprennent plus. Et ils ont sans doute peur aussi de ce miracle, hein. Et ils décident de se diviser. La descendance de Cam, Sem et Japheth partent. Qui reste sur place un peu, Japheth, ça donne les Iraniens, ça donne les Indiens qui partent vers l'Indus. Quand vous regardez un Indien, ils sont noirs, ils ont les cheveux très noirs et ils ont des traits européens. L'ADN. Ils ont à un moment un ancêtre qui a viré à la peau noire et ils ont gardé cette peau noire. Et bien depuis, il n'y a pas d'autre évolution. Il y a une sorte de cul-de-sac dans l'évolution de l'ADN à certains aspects. C'est comme ça. Les Norvégiens sont blonds, grands. Les Indiens seront toujours noirs et aux cheveux noirs. Mais cheveux noirs lisses, pas crépus. Et vous avez les Sémites qui sont proches des Aryens, mais qui ne sont pas des Aryens. Et donc, Adolf Hitler, lui, va prendre des races et pour dire, moi, j'ai un machin. Et tout ça. Sauf que les Slaves sont une branche de Japheth qui vient de Japheth. Donc, lui, il déteste les Slaves. Donc, lui, il est germain, il est alamand, et il y a les Francs. Et alors, il estime un peu plus les Francs, mais seulement vous avez les Gallo-Romains, les Celtes. Alors, comment ils considèrent ensuite les Norvégiens, n'est-ce pas? De toute façon, quand vous considérez les êtres par leur aspect extérieur, vous êtes forcément dans une impasse. C'est leur culture qui est importante. Si vous avez une culture de violence et de sacrifice humain, que vous soyez blanc, bleu ou vert, vous êtes des salauds, c'est tout. Cam, lui, part en Afrique. C'est la descendance de Cam, les Africains. Et sur le chemin, vous avez des Cananéens qui restent, parce qu'on les appelle Cananéens à cause du fils de Cam, et ils restent en Israël, en Palestine, sur le bord de la mer. Les Philistins sont des Cananéens. Les Palestiniens de la bande de Gaza sont des Philistins. Ce sont des Cananéens. Donc ils font la guerre aux Sémites depuis environ 3 700 ans. Il y a de la constance hein, dans la dispute entre eux. Hein. Mais c'est très beau de voir, enfin très beau, non, c'est pas beau, mais c'est impressionnant de voir l'histoire, la profondeur de l'histoire. Et donc, tout ce monde se développe, pas de punition divine. Vous avez les descendants de Noé, et là, il y en a tellement qu'il n'y a plus d'aînés, il y a des patriarcats partout, des clans partout, des ethnies partout. Et voilà que vous avez un des descendants de Noé qui s'appelle Hébert, et qui est un saint homme, il garde le monothéisme d'Adam, et il le transmet. Il y a eu toujours un clan monothéiste qui garde la foi dans le Dieu d'Adam contre Lucifer et le péché originel. C'est ce qu'on appelle la religion adamique. Et Abraham est monothéiste et fidèle à la transmission d'Adam. Et il est au milieu de polythéistes délirants, d'idolâtres délirants, et la tradition orale, hein, pas biblique, dit que Abraham a été, on a voulu aussi en faire un sacrifice humain, on l'a jeté dans le feu et il a été préservé de ce feu. Ce qui est biblique, c'est qu'Abraham est un berger, mais un chef de clan. Il a 300 bergers à son service. C'est un riche éleveur. Et un soir, Dieu lui parle directement, miraculeusement. Et lui dit, tu vas quitter Ur en Chaldée et tu vas partir là où je te mènerai. Et tu seras le père d'une multitude. Abraham, c'est père, et Abraham, c'est père d'une multitude. Et lui, il croit en cette promesse, il dit, bon, ben très bien. Comme les hommes attendent de Dieu la santé et la richesse, il se dit, ben Dieu me bénit, Dieu me donne puissance. Et c'est une annonce forte pour lui, parce qu'il n'a pas d'enfant encore. Il commence à vieillir. Il part avec ses troupeaux, avec son clan, et il est à mi-chemin entre l'Irak et Israël, Palestine. Et là, il s'installe à nouveau, il prospère, mais il n'a toujours pas d'enfant. Un peu triste. Et Dieu lui dit de partir encore, d'aller vers la Terre Sainte, ce qu'on connaît comme Jérusalem et autres. Et il arrive là, et Dieu lui dit, « Maintenant, regarde autour de toi, cette terre, je te la donnerai à toute ta descendance, et vous gouvernerez la terre. Tous les peuples seront... en toi sortira le roi des rois. Tu domineras toute la terre. » Alors là, il est là, avec son clan, il doit peut-être 2000, hein, 300 bergers, leurs femmes, leurs enfants... Allez, ils sont 5000. Donc, quand ils se déplacent, par contre, caravane avec les tentes et tout. Voilà, bon. Et quand ils s'arrêtent, vous voyez, et quand ils repartent pour aller dans des pâturages pour leurs bêtes, quoi. Et là, il dit, toi, descendants seront comme les étoiles du ciel, regarde en l'air, et comme le sable du désert. Autant d'enfants que de grains de sable. Mais non. C'est un super peuple, hein, ça va. Donc Abraham est très content. Il accepte cette promesse. Je me dirais, il avait des voiles, bonhomme. Hein. Ah oui, c'est sûr. Enfin, vous savez, on est en 2017 et tout le monde connaît Abraham. Donc, c'est peut-être une supercherie qui a réussi, mais enfin, pour que ça réussisse, il faut quand même une aide. Hein. Un truc comme ça, c'est énorme. Enfin bon, justement. Et puis Abraham maintenant achète un terrain à côté de Salem, hein, au chêne de Mamré, premier territoire israélien, au milieu des Cananéens, au milieu des Palestiniens. Hein. Là, tout va très bien, il l'a acheté, tout ça, les autres acceptent. Il n'a toujours pas d'enfant de Sarah, son épouse. Alors il est triste, il est triste, il est triste. Et Sarah arrive à 80 ans, donc maintenant c'est foutu. Quoi. Et il se dit, eh ben, c'est foutu. Et là, il prend une femme de second rang. Abraham a été polygame. Il y a une deuxième femme. Il la prend parmi ses servantes pour que ce second rang soit manifeste. Oui. Parmi une esclave. Qu'est-ce que c'est une esclave? Un esclave, ben c'est un employé à vie. Oui. Mais vous lui devez le clos et le couvert, hein, et l'alimentation à votre employé. Alors, il y a des esclaves qui ont énormément souffert, qui étaient traités comme des chiens, mais sinon, vous avez un employé à vie. Simplement. Vous imaginez la nounou qui s'occupe de vos enfants, puis qui s'occupe de vos petits-enfants et qui meurt à la maison. Donc, il y a une famille cossue pour avoir une nourrice, ou qui va s'occuper de vos enfants toujours. Et en fait, elle habite un studio de votre immeuble. Et la différence entre l'esclave bien traité et cette dame de compagnie de votre famille qui, à l'âge de 20 ans, a pris vos enfants et est morte à 75 ans dans le studio, entourée par vos enfants, vos petits-enfants et tout ça, dans le respect et l'amour de tous, vous voyez, ben c'est le salaire. Mais en fait, l'esclavage était... une fidélité totale au maître. Et donc, parmi ces femmes esclaves, une fille de ces bergers, il prend Agar. Polygamie. Mais polygamie, si vous voulez, parce qu'il n'a pas d'enfant de sa première femme. Et il se dit, ma descendance que Dieu m'a promis viendra de cet enfant, Ismaël. Eh bien, manque de chance, Dieu lui apparaît et lui dit, ça ne sera pas Ismaël. Ça sera un enfant que tu auras avec Sarah. Je t'ai fait la promesse quand tu étais marié avec Sarah, ça sera l'enfant de Sarah. Et là, Sarah, elle entend la voix de Dieu qui parle à son mari, hein, parce que c'est un miracle sonore, extérieur à Abraham, c'est pas un songe, c'est pas dans sa tête. Et Sarah, là, qui a 80 ans, elle étouffe un rire. Parce que les femmes étaient stériles à 80 ans à l'époque. Et là, Dieu dit à Abraham, et elle l'entend, « Ta femme se moque de ma promesse. Voilà. » Bon, là, elle rigole plus du tout, lui non plus, enfin, il n'a pas rigolé de toute façon. C'est, eh bien, pour marquer ce manque de confiance, tu appelleras ton enfant rire, mais il sera aussi pour toi une joie. Isaac, rire, joie. Et neuf mois plus tard, Isaac va naître. Et comme Agar, elle, était très féconde, il va y avoir un conflit entre les enfants de la femme de second rang, esclave, et l'enfant légitime de premier rang. Et Ismaël, dans ses jeux avec son frère Isaac, va le brutaliser et va lui dire « Mais moi, je suis l'aîné, je suis né avant toi. » Et l'autre lui dit « Mais t'es peut-être l'aîné en temps, mais pas en dignité. Moi, je suis l'enfant de la première femme. » Et là, vous avez Sarah qui va voir Abraham et qui dit « Chasse ton esclave, c'est un danger pour Isaac. » Alors, Abraham va répudier Agar. C'est quand même les fondateurs de la religion, hein, enfin les fondateurs, ceux qui ont reçu la révélation de la religion chrétienne, hein, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Il répudie Agar. Il était marié légitimement, il était polygame. Elle part avec Ismaël dans le désert, et à un moment donné, elle est là, elle dit, mais nous allons mourir de soif. Et vous avez l'archange Gabriel, je crois, qui sauve Agar et Ismaël et lui indique une source. Et il dit, Ismaël sera comme un âne sauvage. Il mordra tout ce qui passe. Et il sera dur à contrôler. Les Arabes sémites descendent d'Abraham. Agar est peut-être une Cananéenne, mais elle était sans doute une sémite de Chaldée. Hein. Donc c'était sans doute une sémite. Ismaël a pour ancêtre Abraham, Héber, Sem, Noé. Les Arabes d'Arabie Saoudite sont des sémites. Et ce sont les descendants d'Ismaël. Et ils ont une vieille dent contre Isaac. Voilà, je vous dis l'origine. Dans le Coran, il va y avoir, ils vont dire, en fait c'est Ismaël le fils de la promesse et pas Isaac. Forcément, puisque descendent d'Ismaël. On continue la révélation biblique. Vous avez, Isaac, il grandit, il a 14 ans, 15 ans, et Dieu lui dit, voilà, le fils de la promesse. Ah oui, 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 alors, j'en ai qu'un, mais enfin, il aura une grande descendance. Eh bien, je te l'ai donné. Ah, oui, et puis ma femme, ça lui a fait un choc d'avoir un enfant à 80 ans. Eh bien, sacrifie-le-moi. Pardon, j'ai pas compris. Sacrifie-le-moi. Comme les païens et les idolâtres qui tuent leur enfant, je suis le maître de la vie et de la mort. Sacrifie-le-moi. Rends-le-moi. C'est vous dire que les sacrifices humains ont quelque chose de religion naturelle. Dieu, en effet, a le droit de vie et de mort sur nous. Je vous le dis ça, vous mettez dans un coin pour que vous sachiez qui est Dieu. Hein. C'est pas un rigolo. Il prend l'enfant. Il prend du bois. Il prend un couteau. Il met le bois sur le dos d'Isaac. Première prophétie hein, pour Jésus. Ils attendaient le sauveur depuis Adam. Hein. Ta descendance t'écrasera la tête. Hein. La descendance d'Ève écrasera la tête de Lucifer. Donc là, Lucifer, il est aux aguets. Hein. Isaac porte le bois. Et sur le chemin, il monte la petite montagne de Sion, à côté de Salem, Jérusalem. Il monte la petite montagne de Sion. Ça vous dit quelque chose, les sionistes non, oui, non. Il monte la petite montagne de Sion et ils arrivent à une esplanade où actuellement c'est l'esplanade des mosquées. Ça vous dit quelque chose? La mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée du Dôme, non? Ça vous dit quelque chose environ? Non. À Jérusalem. Mais c'est là qu'ils s'arrêtent. Et sur un rocher qui est actuellement sous une mosquée, la mosquée du Dôme, à Jérusalem, il prend son fils qui lui avait dit « Mais où est la victime ?» Et Abraham dit « Dieu y pourvoira. » Il le met sur le rocher et lui il se laisse faire, c'est son père, il ne comprend pas. Saint Paul nous révèle la pensée d'Abraham. Abraham pensait que Dieu allait le ressusciter après l'offrande. C'est Saint Paul qui le dit. Texto. Abraham croyait en la résurrection de son fils. Vous allez me dire, c'est un peu léger, hein, devant le tribunal. Voyez, Dieu m'a dit de tuer ma femme. Mais je pensais qu'elle allait ressusciter après le sacrifice. Là, le juge. Ben là, voyez-vous, lui, il est très pieux, très religieux. Il met son enfant sur le bois. Il l'attache. Parce qu'il va le brûler après, hein, c'est un holocauste. Hein. Il lève le couteau, l'enfant. Vous avez une peinture du Caravage, hein, du sacrifice d'Abraham qui est extraordinaire. Vous avez le sacrifice d'Abraham qui est représenté très souvent. Et n'oubliez pas que la tradition juive, hein, eux, ça rigole pas du tout. Le couteau est là, et là, un ange arrive, arrête Abraham. Il dit, tu crains Dieu, tu crois en Dieu, tu fais confiance en Dieu. Tu seras béni. Tous ceux qui descendront de toi seront une multitude et empliront la terre. Alors, il est content, là. C'est la troisième fois que Dieu lui dit, entre Ur en Chaldée, entre son doute sur sa descendance et sur le sacrifice de son fils Isaac, trois promesses, hein, trois fois la même promesse. Et là, l'ange lui désigne un bouc qui a les cornes dans des arbustes. Il prend le bouc, il l'égorge et il l'offre à Dieu et il le brûle. Mais il a fallu quand même qu'un bouc meure pour le péché. Parce que les animaux, les sacrifices animaux, c'est pour qu'on ne tue pas des humains. Parce qu'on mérite la mort à cause du péché. Donc c'est pour apaiser Dieu qu'on lui donne des animaux qui nous remplacent. C'est ça le sacrifice, hein. Donc vous comprenez, alors, qu'est-ce que font les musulmans actuellement? C'est le sacrifice d'Abraham, c'est pas Pâques. Ils prennent le mouton, ils l'égorgent à la place. Et là, Mahomet a remplacé Isaac par Ismaël. Mais historiquement, c'était pas Ismaël, il était parti dans le désert avec sa mère. C'était Isaac. Donc, grosse dispute théologique entre juifs et musulmans. Nous, c'était Isaac. Et tous les 2 milliards de chrétiens sur Terre confortent les 20 millions ou les 30 millions de juifs en disant « Si, si, c'était Isaac ». Et les 1 milliard 300 millions 400 millions de musulmans disent c'était Ismaël. Pour l'instant, en numérique, on est plus. Et puis jusqu'à l'an 600, avant Mahomet, tout le monde considérait que c'était Isaac. Et peut-être que des tribus sémites considéraient que c'était Ismaël. Mais c'est... Et là, on souffle, vous voyez. Et Isaac va avoir comme fils Jacob. Et Jacob va avoir 12 fils qui vont donner, et il est très content. Dieu renouvelle à Jacob la promesse d'Abraham. Il a une apparition de Dieu. Jacob va être polygame, mais par accident. Hein. Il va travailler chez des cousins éloignés en Babylonie, mais la famille sémite, pour pas se mélanger avec d'autres ethnies, il retourne dans sa famille. Il prend une cousine éloignée, et le jour de son mariage, dans le lit, il consomme l'union, mais c'est très pudique à l'époque, hein. La femme est vierge. C'est la défloration de la femme, tout ça, c'est sacré. Parce que c'est l'enfant, l'origine de l'enfant. À l'époque, on n'a pas de test ADN, donc il faut que la femme soit vierge au mariage. Pour savoir d'où viennent les enfants. Que le père soit certain que c'est son enfant. Parce que 9 mois plus tard après, voilà. Et donc, au petit matin, il se réveille et c'est pas la femme prévue. Parce que son beau-père voulait placer sa fille qui louchait. Et lui, il voulait se marier avec Rachel. Il a eu Léa qui louchait et que personne ne voulait et qu'il n'arrivait pas. Eh bien, Jacob a accepté le mariage. Il a, si vous voulez, validé son consentement faussé. Il aurait pu même pas la répudier, il l'a chassé, c'était pas sa femme. Il y avait erreur sur la personne. Hein, il a convalidé le mariage par sa volonté. Il a attendu 7 ans de plus pour avoir Rachel qui voulait. Et il part avec Léa et Rachel. Et il revient auprès de son père Isaac. Et là, vous avez Ésaü, qui est l'aîné de Jacob, l'aîné d'Isaac. Et qui est impie, pas religieux du tout, qui se fout complètement de Dieu et de la bénédiction paternelle qui était sacrée. Et un jour, il revient de la chasse, il a faim, il est là, et vous avez Jacob qui lui dit, comme il y a eu une prophétie, quand sa mère a enfanté, Isaü a sorti la main de la vulve maternelle, et la sage-femme, tout de suite, met un cordon, parce qu'il savait qu'elle était trop grosse, c'était probablement deux enfants. Enfin, et donc, l'aîné, parce qu'il est sorti du corps de la mère, le premier. Et la main repart. Ensuite, on accouche. Et le premier qui sort en entier, c'est l'autre. Et du coup, on l'appelle Jacob parce que c'est le supplanteur. Mais l'autre était quand même l'aîné parce qu'il avait sorti le premier la main. Ésaü était l'aîné. Eh bien, Jacob propose à son frère aîné un plat de lentilles qu'il venait de préparer, bien chaude. Il dit, je te donne mon droit d'aînesse, mais j'ai faim. Eh bien, la femme, je ne me souviens plus la femme d'Isaac, c'est Rebecca. Rebecca dit à Jacob, maintenant tu seras l'aîné, de toute façon ton frère est indigne, et donc elle va présenter Jacob comme Ésaü à son mari, qui était aveugle et vieux, et il bénit Jacob avec le droit d'aînesse. Et Jacob prospère, Ésaü est fou furieux, il donnera les Édomites, qui sont donc sémites eux aussi. Ce sont des peuples qui sont dans la région. Et lui, il est quand même descendant même d'Isaac, hein, c'est pas rien. Bon.
Et qui sont les Édomites aujourd'hui ?
Les Iduméens, d'ailleurs, je crois. Ben, ce sont des clans d'Arabie, ou des Jordaniens. Oui. Les Moabites, les Édomites, les Édonéens. Et là, Jacob est en prière, l'ange lui apparaît et lui dit, tu as les promesses de Dieu à nouveau, toi aussi. Très bien. Et alors, avant de partir, il demande à l'ange de le bénir. Et l'ange refuse. Et là, Jacob comprend pas. Bénis-moi. Il veut pas. Alors il se jette sur l'ange qui lui était apparu sous forme humaine, avec un corps d'emprunt, sans doute creux d'ailleurs, mais des corps très ressemblants. Il a pas d'ailes. Les anges apparaissent où ailés pour montrer leur puissance et leur mission divine, mais où sans ailes. Et là, c'est sans ailes. Il se bat. Et l'ange s'amuse avec lui. Et à un moment donné, il lui tranche le nerf sciatique. Et là, boum, il tombe au sol. Et là, il lui dit, ben c'est bien. Tu veux la grâce de Dieu. Je te bénis. Et tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Fort face à Dieu. Israël, ça vous dit quelque chose? C'est important, hein? Non? En géopolitique, non? C'est... Israël. Et donc Israël va être béni et tout content. Et je ne vous fais pas toute l'histoire sainte parce qu'on se concentre sur le mariage. Il va avoir 12 enfants. Et sur ces 12 enfants, un de ses enfants va Joseph va être jalousé par ses autres frères, ils vont vouloir le tuer. Plutôt que de le tuer, vous avez Simon qui le fait jeter dans une citerne de réservoir d'eau pour qu'il meure de faim. Il revient et il ne le trouve pas parce qu'en fait c'était pour éviter qu'il soit égorgé, il l'avait fait jeter dans la citerne, il voulait en fait le sauver. Entre-temps, ses autres frères ont vu une caravane arriver et ils ont vendu leurs frères. Et la caravane est allée jusqu'en Égypte. En Égypte, il est devenu un esclave, il était esclave, Joseph. Mais ensuite, il a annoncé les sept années de vaches grasses et les sept années de vaches maigres. Et il est devenu le premier ministre de Pharaon, parce qu'il interprétait les songes divins. Hein, le Pharaon avait eu le songe des sept vaches grasses, sept vaches maigres. Et donc il est devenu intendant de l'Égypte. Et il y a eu 7 ans de famine dans tout l'Orient, le Moyen-Orient, et Jacob Israël est venu avec ses fils en Égypte pour pouvoir manger, parce que Joseph avait très bien géré les 7 années de récolte bonne pour les 7 années sans récolte. Et là, les frères reconnaissent leur frère dans l'intendant égyptien. Pas tout de suite, tout ça, mais je passe. Et il leur pardonne, parce qu'il voit son petit frère qui était pour rien, Benjamin. Ça a donné le Benjamin. C'était le dernier fils de Jacob Israël, Benjamin, le petit frère. Et voilà, il s'installe en Égypte. Et puis finalement, ils reviendront pas en Terre Sainte après la famine. Pendant 7 ans plus tard, ils repartiront pas. Et avant de mourir, Jacob Israël va bénir ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a Judas, pas celui qui a trahi Jésus, J-U-D-A-S, mais la tribu de Judas, un des 12 fils de Jacob Israël. Et quand il le bénit, il lui dit: tu seras le chef de tes frères. On est en 1600-1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est qu'en l'an 1000 que les descendants de Judas deviendront rois. Alors bien sûr, vous avez des exégètes, les rationalistes disent: bon, c'est pas possible, ça a été écrit plus tard. Comment pouvait-il savoir que 500 ans plus tard, les descendants de la tribu de Judas seraient les rois de toutes les 12 tribus? Oh, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Prophétie. Mais la prophétie est bien plus forte. Il dit à Judas: tu auras le sceptre, et celui qui est le désiré viendra quand tu perdras le sceptre. Le désiré, c'est qui? C'est le sauveur promis à Ève, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et là, il dit à Judas: quand tu perdras le pouvoir, le roi des rois viendra. Et tout le monde entend, hein. Et les Hébreux encore attendent que le Messie vienne d'un quelqu'un de la tribu de Judas. Hein. Demandez aux Juifs qui sont dans le quartier: est-ce que le Messie doit venir de la tribu de Judas? Et oui, comment vous savez ça, vous? Eh bien, voyez-vous, il bénit tous ses enfants. Eh bien, les Hébreux vont rester en Égypte. Et ils sont bien considérés, sauf que ceux qui s'occupent des animaux sont considérés comme impurs dans la religion égyptienne. Donc on leur donne une région du nord où ils ont des élevages, mais s'occuper des bêtes, de leurs excréments, tout ça, c'est... Les Égyptiens, eux, sont dans le céréalier, hein. Mais l'élevage, c'est souillé, hein, c'est les... Et ils se multiplient. Par contre, Dieu donne une santé de fer aux femmes juives. Elles ont 20 enfants, 25 enfants. En France, encore au 19e siècle, vous aviez des femmes qui avaient 22 enfants, dont 5 à 7 survivaient. C'est-à-dire qu'une femme qui a une santé, une excellente santé, peut avoir 20 grossesses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, à l'époque, les femmes juives ont 20, 30 grossesses. Et le peuple se multiplie. Du clan d'Abraham, Isaac, Jacob, 450 ans plus tard, ils sont 1 million. Et ça pullule, ils ont des enfants partout. Et les Égyptiens, 450 ans plus tard, oublient que leur ancêtre a sauvé le peuple égyptien. Et le pharaon dit: ce sont nos ennemis, ce sont des sémites, nous on est des cananéens, il faut les tuer. Pour les garder en esclavage, on va tuer tous les garçons qui vont naître à partir de maintenant. On garde les hommes pour construire des citadelles, des forteresses, des pyramides. Mais on tue tous les bébés mâles. Donc ils tuent tous les bébés. Alors, elle se cache et tout ça. Vous avez une juive qui va enfanter un petit enfant. Elle était l'esclave de la fille de Pharaon. Elle était enceinte. Donc si c'était un garçon, on devait le tuer. Donc elle cache le plus possible sa grossesse. Et quand elle enfante, elle va se dire, je vais la confier à la fille de Pharaon par un stratagème. Elle prend son enfant, elle le met dans un berceau en osier. Et elle le met dans les joncs, là où la fille de Pharaon vient se baigner. Et donc elle vient se baigner avec ses servantes, et elle dit « Oh, regardez !» Oh. Il soulève le machin, pas de prépuce, des Hébreux. Tradition d'Abraham, de la circoncision. Les Cananéens ne se circoncisent pas. Les Égyptiens ne se circoncisent pas. Un Hébreu, bon, coupé le huitième jour. On va l'appeler Sauvé des eaux, Moïse. Et tiens, toi, ma servante, tu t'occuperas de lui. Bien, maîtresse. Elle s'occupe de son fils. Elle lui donne la religion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il est élevé à la cour de Pharaon. Et un jour que Moïse voit un Égyptien en train de frapper un Juif, enfin un Hébreu à l'époque, il le bouscule, il le frappe et il tue l'Égyptien. Du coup, même s'il est de la famille de Pharaon, il est coupable de meurtre et il est chassé. Du coup, il part dans sa famille hébraïque. Et dans les montagnes, il devient éleveur dans les montagnes, tout triste, quand même, enfin bon. Voilà. Et il est là, et alors qu'il garde un troupeau, il voit un buisson qui brûle, un feu de garrigue, un feu de désert. Et puis il brûle, et il brûle, et il brûle, et il brûle, mais les branches ne tombent pas. C'est quand même curieux. Donc il s'approche. Et là, une voix sort du buisson ardent qui lui dit « Ce lieu est sacré. Le Sinaï. Retire tes sandales et approche-toi. » Il retire ses sandales. « Tu iras dire à mon peuple « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez sortir d'Égypte et retrouver la terre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Vous savez le terrain qu'il a acheté à Jérusalem? Ben oui, mais c'est quand même, historiquement, ils ont été une centaine d'années, là. Tu retourneras. Ah bon? Et je vais le dire à quoi? Tu le diras à Pharaon. Il va me tuer. Je te protégerai. Je ne sais pas parler. Tu as ton frère Aaron. Il parlera pour toi. Si tu t'exprimes mal. Il dit, pose ton bâton par terre. Il pose son bâton par terre. Et le bâton devient un serpent. Et le bâton redevient un bâton. Je te ferai faire des prodiges devant Pharaon et il te croira. Il part en Égypte.